נר חנוכה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על ידי כהניך הקדושים בכל שמונת ימי חנוכה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ולרשותיך ועל נפלאותיך. מזמור של חנוכת הבית לדוד, ארום ממך אדוני כי דיליתני ולא שימחת. אוי באי לי אדוני אלוהי, שיבחתי אליך ותפאני. אדוני אלית מן שאול נפשי, חיתני מירד דיבור. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר כל שוקיריה באפו. חיים ברצונו בערב ילין בכי, והבוקר הנה ואני אמרתי בשבי. בלמות לעולם אדוני, רצונך אמת להרריות. הסתרת פניך הייתי נבהל אליך אדוני יקרא, ואל אדוני את חנן מבסע בדמי. וליתי אל שחת היודך עפר, היגיד עמיתך שמה אדוני וכונני. אדוני עוזר יפת מספדי למחולי, פיתחת עסקי ותעזבני שמחה למען. זמן חכבוד אלו ידום, אדוני לא יראה עולם עודקה. מה עושור ישו עדי לך נראה שמיה, ינקום בתפילתי ושם תודה נזמריה. ולבים מלאה מצרם נבאה, עד לגמור בשיר מזמור
Bien, alors on va prendre la paracha de Miketz, qui est celle de cette semaine. Et je vais vous donner tout de suite le chapitre. Et ça, c'est pas ça vous ? La terrasse. Ma chère, la toute. Alors, nous sommes au chapitre 41, mais malheur. Et dans ce livre, vous avez à la page, pardon, 197. Très rapidement, donc, comme d'habitude, le moment du récit où nous nous trouvons. Et dans l'étude de la paracha précédente, la semaine dernière, nous avons vu que dès le retour de Jacob dans le pays de Canaan, vont se mettre en place deux stratégies différentes pour la suite de l'histoire d'Israël, en particulier la suite des Toladot, c'est-à-dire des engendrements qui doivent mener au temps messianique. Et ces deux stratégies messianiques qui passent l'une à travers Joseph, l'autre à travers Judas, vous rappelez. Et en particulier, la Torah va beaucoup plus abondamment, je ne sais pas comment dire, développer le récit de l'histoire de Joseph en Égypte. Et nous sommes arrivés à la fin de la paracha de Vayeshev, de la paracha qu'on a lue le Shabbat dernier, à la fin de la première étape de la vie de Joseph. celle qui, si vous voulez, donne une sorte de préfiguration de l'exil dans sa dimension la plus pénible, dans sa dimension de persécution, dans sa dimension de déportation d'abord, le fait de ne pas être par force, de ne pas être dans son propre pays. Et on voit toute cette histoire de Joseph qui commence par devenir très important dans la maison de Potiphar, qui était un des princes principaux du royaume, enfin de cet empire, de cette culture. Et après l'épisode de la déception de la femme de Potiphar, alors il se trouve jeté dans la prison. C'est plus qu'une prison, c'est vraiment là où on envoyait les personnages importants du royaume qui étaient déchus. Puisqu'il va y rencontrer tout simplement deux des princes qui avaient été eux-mêmes déchus de leur prérogative. Et nous allons commencer le récit par le récit des rêves du pharaon. Alors je vais lire quelques versets et nous allons étudier un premier thème, c'est-à-dire comment comprendre ce revirement brusque dans la destinée de Joseph, comment il va être appelé à devenir lui-même par la suite, non seulement un personnage important en Égypte, dans la maison de Potiphar, et comme nous avons vu dans le récit précédent, mais le vice-roi d'Égypte lui-même est pratiquement à la tête du pays. Alors je lis les premiers versets. « Vaïi, et il arriva, Miket, à la fin, au bout de Shenatai Miamim, de deux années pleines. » C'est une expression typique de l'hébreu de la Bible, lorsque l'expression de Yamim signifie que l'année est pleine de tous ses jours. Shenatai Miamim. Sinon, il y aurait une sorte de répétition, deux années de jours, mais ça veut dire deux années complètes. Paro Cholem. Et le pharaon se mit à rêver. Le premier thème que nous allons étudier, c'est ce fait que nous avons un pharaon qui rêve. Vous vous rappelez que nous avons touché un petit peu dans les cours précédents dans l'importance de la capacité de rêver, en particulier en relation avec le rêve de Jacob. Vous vous rappelez de cela? Tout le monde n'était peut-être pas là, mais enfin je le rappellerai tout à l'heure. Alors c'est étonnant de voir, dans toute cette partie du récit du livre de Bréchit, il y a énormément de rêves. Il y a le rêve de Jacob, il y a les rêves de Joseph, il y a les rêves des ministres du pharaon, et il y a le rêve du pharaon lui-même. Et nous verrons qu'il y a ici une implication très importante. Vehine Omed Alayor. Et voici, il se trouvait debout près du fleuve. Le fleuve, le Yehor, c'est le Nil. Et je rappelle déjà en passant tout de suite que le Nil représente une des divinités de l'Égypte. C'est un élément important que nous verrons tout à l'heure. Et déjà dans ce premier verset, nous verrons la différence de nature entre le contenu de l'expérience de rêve du pharaon et d'autre part le contenu de l'expérience de rêve de Jacob et des patriarches hébreux, puis qui mène à la prophétie des prophètes. Quel est le contenu de ce rêve? Nous allons lire le premier exemple, même les deux d'ailleurs. « Vehine minayor olot shevar parot yefot mare ubriot basar. » Et voici que du fleuve, du Nil, montaient sept vaches yefot mare, belles d'apparence, ubriot basar et saines de corps, de chair, batilaena barachou, et elles paissaient dans le pâturage. « Vehine shevar parot aherot » mais voici que sept vaches, cette autre vache, Olot Aharel, sont montées après elle, Minayor du fleuve, Raot, mauvaise d'apparence, Raot Mare, Bedakot Bassar, et je crois qu'on dit en français, efflanqué, Machu Kazé, oui, c'est-à-dire maigre, Vata Amudna, et c'est la parole, Al Sefatayo, et elle se tient sur la rive du fleuve, à côté des autres vaches, les premières. Et les vaches mauvaises d'apparence ont dévoré, Vedakota Bassar et Meg ont dévoré et Cheva Aparot, les sept vaches, les fautes amarées, vers Briot, qui étaient belles et saines. Vaikat Sparot, et le pharaon s'est réveillé. Il y a eu fin de ce rêve. Vaisham, et il s'est endormi. Vaïchalom, Sheni, et il a rêvé une deuxième fois. Vehine Cheva Shibolim, et voici que sept épis. Olot Bekane Echad, je devrais dire comment traduire? Olot Bekane Echad, ça veut dire qui montait de la même tige. Or, c'est la tige qui fait l'épi ou c'est les grains qui s'appellent l'épi? Enfin, vous comprenez en tout cas le sens. Cette chibolie, mais de la même tige. Beriot vetovot, saine et bonne. Veine, Shevar Shivolim, et voici que sept épis, Dakot ou Jdufot Kadim, Dakot, mince, ce serait trop joli. Maigre, non, ça se dit pas pour un épi, mais vous comprenez quand même. Chétif, ken, vide. Ou Jdufot Kadim est brûlé par le vent d'est, Somchot Ahareem, qui germait après elle. Vatiblarna, Shibolim, Dakot, et les épis. Vide, ont avalé et préparé Shibolim à Briot, les sept épis saines, vers Méléot et pleines, veille quatre pharaons, et le pharaon s'est réveillé, veille halom, et voici, c'était un rêve. Je l'ai encore inversé, veille, et il arriva, baboker, au matin, vatipaem rucho. Littéralement, ça veut dire que son esprit sonnait comme une cloche, par amon, vatipaem rucho. Je crois qu'il y a là une expression qui, dont le sens peut être compris un peu en signification moderne, qu'il est obsédé par une idée fixe de ce rêve. Le contenu du rêve est très analogue, comme nous allons voir tout à l'heure. Il se répète deux fois dans deux formes différentes, mais pas seulement après le rêve pendant la nuit, mais même au matin, son esprit n'était pas tranquille de ce qu'il avait perçu de façon plus ou moins confuse ou inconsciente dans ce rêve, et nous allons voir pourquoi. Vaishlach, il envoya, Vaikra et Kolhartoumé par Mitraïm. Il envoya chercher tous les sages, disons les, on va dire les sorciers. Vous savez qu'il y a une ville qui s'appelle Khartoum, et elle est sinistrement connue pour nous, puisque c'est là que ce qu'on appelle le tiers-monde a décidé, ce qu'il a décidé contre Israël. Et effectivement, c'est une ville qui était connue depuis la haute antiquité pour être une ville d'école de sages, d'école de devins, d'école de prêtres de la religion égyptienne antique, et la tradition en est restée, cette ville a gardé ce nom-là. C'est-à-dire c'est le même mot. Bekol Hachamea et tous ces sages, Vaisaper Parolahem et Halomo, et le pharaon raconta leur raconta son rêve, Ven Poterotam le pharaon, et il n'y avait personne qui n'était capable de l'expliquer au pharaon, de les expliquer au pharaon. Je vais partir de cette expression précise. Tiré Midrash explique que, bien entendu, les sages, les sorciers, comment dire, les mages, plus exactement, de l'Égypte, il faut se souvenir qu'il s'agit d'une très grande culture. La définition de l'idolâtrie vous est toujours donnée dans une perspective négative, parce qu'effectivement, par rapport à la Torah, l'idolâtrie est une déviation de la piété, une dégénérescence de la piété. Il ne faut pas oublier que l'idolâtre est premièrement pieux, et c'est pourquoi il est idolâtre. Seulement, l'objet de sa piété est dévié. Et il y a eu des cultures idolâtres de très grands niveaux culturels, et les modernes ont fini par le découvrir de plus en plus. Je me souviens encore d'avoir étudié à l'école dans un temps où les professeurs avaient un mépris absolu pour le contenu infantile de ce que pouvaient être ces cultures de l'Antiquité. On parlait des cultures de l'Antiquité comme des cultures de primitifs dans le sens négatif, mais de plus en plus on découvre qu'il pouvait y avoir eu des niveaux culturels extrêmement riches, précisément dans cette expérience de la ferveur idolâtre. Si vous voulez, pour attacher cela à la définition de l'hérétique ou de l'hérésie, il ne faut jamais oublier que l'hérétique, c'est l'autre croyant. De la même manière, l'idolâtre, c'est la piété déviée, mais bien entendu, elle peut avoir un contenu culturel de très grande richesse. Les modernes sont très inaptes à comprendre ce qu'a pu être la richesse culturelle des mythes de l'Antiquité. Et au fond, c'est une mentalité assez analogue, comme nous le verrons tout à l'heure, que l'on trouve dans le matérialisme contemporain, mais privé de toute cette richesse, de toute cette couleur, je ne veux pas dire artistique, parce que c'est plus que cela, que pouvait avoir la vie culturelle de ces grands paganismes. Bon, j'ai plaidé un peu, si vous voulez, pour le diable, si j'ose dire, mais d'abord pour restituer le niveau du récit et à quel niveau cela se place. Et donc, ces sages étaient des sages. Leur sagesse était impure, mais c'était une sagesse. Ces mages étaient des mages. C'était des mages, du côté du mal. La différence entre le mage et le magicien, plutôt magicien que mage. Mais c'était quand même d'un très haut niveau de culturel, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, ils disposaient d'explications possibles des rêves du pharaon. Et immédiatement, nous allons voir pourquoi c'est important que la Torah nous raconte que le pharaon rêve. Et comme si il s'approche d'une certaine frontière de dévoilement de vérité, frontière qui serait commune à l'expérience de dévoilement de vérité de ce qu'ont été l'expérience des patriarches hébreux et par la suite des prophètes d'Israël. Vous avez peut-être entendu cet enseignement du Talmud, que le rêve est un 60e de la prophétie. Bien entendu, pas n'importe quel rêve, mais il y a un dévoilement de connaissances très très occulté, très très caché, un pressentiment de vérité qui n'arrive pas à se faire jour de façon claire, qui se traduit à travers des images qu'il faut décoder, qu'il faut décrypter, qu'il faut comprendre, mais le fait d'être capable de rêver, c'est déjà, dans ce sens-là bien entendu, c'est déjà une indication d'une capacité d'être lié au dévoilement de la vérité cachée. Et c'est quoi le Talmud dira, le rêve, le vrai rêve, c'est un 60e de la prophétie. Et voilà qu'on nous parle d'un idolâtre, un roi idolâtre, le pharaon, qui rêve. Alors il faut savoir que à ce moment-là de la culture égyptienne, se produit une possibilité de transfiguration de cette culture. Cela est indiqué en particulier par là, que immédiatement après le fait qu'on caractérise l'identité des patriarches, Jacob, Yosef, plus exactement, au niveau du rêve, voilà qu'on nous dit que les goïms rêvent. Et qui, le pharaon et le ministre Sarah Mashkim, Sarah Kraofim, comment on appelle ça en français, j'ai oublié, le panetier et les chansons, okay. Et ça peut paraître, on est tellement familier au récit qu'on ne prend pas garde, si vous voulez, au paradoxe. Non, c'est pas paradoxe que je devrais dire, mais vous comprenez l'idée, à l'indication qu'il nous est donnée ici et qui est étonnante. Il y a une sorte d'analogie entre la capacité spirituelle des patriarches, ils sont capables de rêver dans le sens profond du terme. Je vous rappellerai tout à l'heure comment les chassidim ont l'habitude d'illustrer cette dimension du rêve qui est déjà presque prophétique. Et d'autre part, on nous dit, ben, le pharaon et ses ministres étaient aussi capables de rêver. Il y a une grande différence finalement qui va apparaître, c'est que le rêveur d'Israël est capable d'expliquer les rêves des autres, mais que les autres ne sont pas capables d'expliquer leurs propres rêves. Et ce que je voulais dire tout de suite, c'est que les sages en question de l'Égypte étaient capables de donner des systèmes d'explication, mais ces systèmes d'explication n'arrivaient pas à satisfaire Pharaon lui-même, ce qui est une indication du niveau de proximité à la capacité spirituelle hébraïque qu'avait par ses propres forces, auquel est arrivé par ses propres forces ce pharaon. Donc on ne soit pas étonné que lorsque ce pharaon va comprendre que Joseph sait expliquer les rêves, il va le choisir comme pour être son premier ministre. Sinon le récit serait très étonnant. Ça pourrait apparaître comme un récit de légende, des miracles qui arrivent que dans les légendes. Le pauvre prisonnier qui est choisi, on se demande pourquoi, par le roi pour être le bon ministre contre tous les méchants ministres qu'il avait. Vous voyez à peu près l'allure d'un récit genre Fable de la Fontaine, alors qu'en réalité, ici, le texte nous définit les personnages de manière telle que la cohérence prend une vraisemblance d'ordre biblique. Ce pharaon n'est plus comme les autres pharaons idolâtres. Il est encore idolâtre, mais il rêve. Alors, puisqu'il rêve, ça nous fait comprendre pourquoi il va être tout de suite sensible à ce que représente comme sagesse authentique cet hébreu qui est capable d'expliquer les rêves. Pour le moment, c'est formel. Okay. Alors, je reviens sur cet enseignement des chassidim que je cite toujours par rapport à ce sujet. Je l'avais entendu du Rav Kook, des Chomer Bracha, et ça m'a beaucoup frappé. C'est sous forme d'anecdote. Un jour, un maître des chassidim m'a demandé à un de ses fidèles de quoi tu vis. Alors, le juif lui a répondu très simplement, eh bien, je suis pâtissier. Il aurait pu être autre chose, mais enfin c'est joli dans le récit, ça ressemble aux pâtisseries des Égyptiens du rêve précédent. Je suis pâtissier, je vends des gâteaux. Mais le rabbi, lui répète la question, il dit, mais de quoi tu vis? Il dit, mais de ça, je suis pâtissier, j'achète de la farine, je fais des gâteaux, je vends les gâteaux avec l'argent, j'achète de la farine, je fais des gâteaux, je vends des gâteaux. Et alors le rabbi l'interrompt en lui disant, mais c'est justement ce que je te demande pas à quoi tu perds ton temps, je te demande ce qui te fait vivre. Et le juif ne comprenait pas. Alors finalement, le rabbin lui dit, à quoi tu rêves? J'ai compris la différence. Finalement, il a compris. C'est-à-dire, il s'agit du rêve qui donne un sens à la vie qui se perd dans le temps qu'il faut pour la gagner. acheter de la farine, faire des gâteaux. Bon, à Hanouka, c'est des sous-gagnottes, mais ça change au problème. Et alors voilà, donc il y a un pharaon qui rêve. Et les explications des sages, on pourrait les appeler de notre temps, l'intelligentsia de cette culture-là, ne le satisfont pas. Lui est capable de rêver. Et donc, il ressent le manque de dévoilement dans l'explication intellectuelle qu'on va lui donner. Je vais citer un des Midrashim qui explique comment ces sages ont tenté d'expliquer les rêves. Ils ont dit, voilà, tu vas gagner cette guerre et ensuite tu vas les perdre. Bon. Puisque vous vous rappelez de la structure des deux rêves, il y a d'abord abondance et ensuite famine. C'est-à-dire, il y a d'abord expansion et ensuite, comme on dit, mitoun, récession. Et dans les deux, si vous voulez, dans les deux branches de l'activité de l'Égypte agricole, à la manière de l'histoire de France, pastourage et labourage. Vous voyez, autant de. Comment il s'appelle celui-là ? Sujet. Et d'abord le pâturage et ensuite l'agriculture à proprement parler. Et donc, le caractère formel du développement du rêve est expliqué par eux dans d'autres situations de la politique, de la société où ils vivent. Et une autre explication, en fait, c'est que le Midrash, c'est tu vas annexer cette province, conquérir cette province, et puis tu vas les perdre. Et ils n'arriveront pas à sortir de j'achète de la farine, je fais des gâteaux, je vends des gâteaux, j'achète de la farine. C'est-à-dire du fonctionnement conditionné de l'existence dans laquelle ils sont insérés. Et nous allons voir dans le texte lui-même. Ve'en poterotam le pharaon. Et personne n'était capable de les expliquer, ces rêves, à pharaon. Ils étaient capables de les expliquer, je veux dire, de donner des explications. Mais ces explications n'arrivaient pas à satisfaire le pharaon. Alors nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que pressent le pharaon et pourquoi, quand on va lui signaler qu'il y a un hébreu quelque part, il était en prison, mais qu'il y a un hébreu capable de déchiffrer les rêves, les autres aussi étaient capables de donner un déchiffrement des rêves, mais capable d'expliquer les rêves en tant qu'hébreu, alors là, il le fait venir et c'est là que commence le récit de l'ascension et de la grandeur de l'hébreu. Et voilà ce qu'il faut comprendre. D'abord, quelle était la nature de la conception du monde propre à ces grandes idolâtries, à ces grands paganismes, et donc à ces grandes cultures païennes dont l'Égypte, dont parle la Bible, peut être le modèle ou l'exemple ou l'illustration parce que c'est la plus connue finalement. Bien sûr, on connaît aussi ce qu'a été la mentalité païenne de la culture grecque, mais finalement, du point de vue du Midrash, ce qui nous est le plus sensible, c'est quand même la mentalité de la culture égyptienne par rapport à ce problème. Eh bien, même si apparemment les expressions que je vais employer peuvent paraître anachroniques, c'est très exactement une culture dominée par le principe du déterminisme absolu. La notion de déterminisme est une notion de la philosophie matérialiste contemporaine. Mais tout se passe comme si, ce que je vous ai expliqué, cette notion du déterminisme de la culture contemporaine n'est que la laïcisation du principe de base de la conception, de la compréhension du monde d'après ces idolâtries païennes. Et en effet, je vais essayer de vous caractériser d'abord en un premier point quel était le principe de base des religions de ce temps. Les historiens des religions nomment cette mentalité religieuse l'astrobiologie, que je vais vous décrire de façon très, très rapide. C'est-à-dire, dans cette conception du monde, on pensait que la vie, que ce soit la vie biologique de l'animal, mais que ce soit aussi, bien qu'à un niveau plus élaboré, plus sophistiqué, disons, la vie des êtres humains, est conditionnée par des lois naturelles, de la même manière que tous les phénomènes sont conditionnés par des lois naturelles. Et par conséquent, on avait pensé une relation, une harmonie, ou un parallèle, entre les lois qui gouvernent les mouvements des astres et d'autre part les événements qui affectent les êtres vivants. Et que, par définition, l'homme ne fait pas exception. Et par conséquent, les divinités de ce type de religion étaient appelées des divinités astrobiologiques. Par exemple, lorsque l'on dit que les Égyptiens adoraient le taureau, Il est bien évident que, premièrement, ce n'est pas le taureau, espèce animale, qu'ils adoraient. Le taureau, espèce animale, était pour eux le symbole ou l'exemple, au niveau biologique, de ce qu'était le signe céleste du taureau. Puisque j'ai dit signe céleste, le signe du zodiaque, du taureau. Et de la même manière, je pense que c'est clair. Vous voulez que, prenons un exemple contemporain, si nous parlons de symboles idolâtres ou païens, du point de vue de l'orthodoxie juive, d'une religion comme par exemple le christianisme, il est évident que malgré tout, un chrétien n'adore pas un morceau de bois en forme de croix, mais ce qu'il représente. Et le morceau de bois en forme de croix n'est que le symbole, le véhicule symbolique, si vous voulez, de la réalité qu'il est censé adorer. Bien entendu, il y a toujours un niveau de superstition où vous trouverez peut-être qu'on dira que les Indiens de l'Inde adorent des vaches. En réalité, les Indiens de l'Inde adorent des principes divins qui sont, selon eux, incarnés dans la vache, mais non pas la vache elle-même. Bien entendu, il peut y avoir un niveau de religion élémentaire superstitieuse où on vous dira que c'est... Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Par exemple, lorsque vous voyez un juif embrasser un Sefer Torah, il est bien évident qu'il n'adore pas le Sefer Torah, mais il respecte ce que le Sefer Torah représente, c'est-à-dire ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah. Parce que c'est bien clair. Et puis, avoir tous les niveaux d'expression extérieure de cette ferveur ou de cette piété, mais pour retrouver l'importance, vous voulez, de la culture que représente cette mentalité à laquelle la Torah va nous confronter, je voudrais citer le principe suivant, c'est que la grandeur de cette civilisation égyptienne vient aussi, nous est dit aussi par le fait que c'est elle que la Torah a choisi pour se mesurer avec elle. C'est-à-dire, on ne combat pas des moulins à vent. Il y avait quelque chose à combattre dans cette culture. Cette culture était d'un niveau important. Et par conséquent, il y avait un certain niveau de sagesse. Mais quel était ce principe ? C'est que la vie humaine est non seulement conditionnée, mais déterminée par des règles fixes, immuables, absolues. Et le Midrash donne comme exemple les crues du Nil. Les crues du Nil étaient la matrice nourricière de l'Égypte, puisque c'était grâce aux crues du Nil que l'engrais, enfin le limon, pouvait donner finalement les pâturages et les labourages. Et donc, l'idée qu'il puisse y avoir un bouleversement de l'ordre qui règle l'histoire des dieux, dans cet exemple les crues du Nil, est une idée qui est a priori extérieure à la mentalité orthodoxe de cette religion. Il ne peut pas y avoir une hypothèse que le rêve de Pharaon voudrait dire cela, que l'économie égyptienne va se dérégler, ou peut se dérégler. Cette idée est hérétique. Si on se trouvait en système soviétique de la Russie, le pharaon se serait... Non, pas le pharaon, mais le sorcier qui aurait osé expliquer cela comme ça, j'allais dire entre guillemets à la juive, se serait retrouvé dans un asile psychiatrique en rééducation. Okay ? L'idée que les crues du Nil peuvent se dérégler, c'est l'hérésie absolue. C'est-à-dire, c'est le type d'explication qui ne peut que contredire la mentalité orthodoxe de la religion astrobiologique. Tout est fixé par le mouvement des astres, et en fin de compte, ces païens-là, au niveau culturel, avaient une capacité esthétique, si vous voulez, de diagnostic dans la qualité même des phénomènes, en phénoménologie, au niveau phénoménologique, extraordinairement grande que les modernes ont perdu. Les modernes, finalement, ne se relient à ces manifestations culturelles de diagnostic, comment les forces cosmiques s'expriment à travers les phénomènes. Ils avaient des liturgies extrêmement riches, extrêmement nuancées, que par un biais très poétique secondarisé. Lorsque un moderne peut être sensible à un aspect quelconque poétique, artistique, mais dans le sens esthétique, dévitalisé, de par exemple la rencontre avec ce que pouvait représenter la forme d'une statue égyptienne. J'avais une fois aussi raconté cette expérience que j'ai eue. Un jour, il y a longtemps, j'avais préparé pour la télévision française une émission sur Pessah, et on devait tourner cette émission dans les salles du Louvre consacrées à l'Égypte. Et pour arriver dans les salles du Louvre consacrées à l'Égypte, il fallait passer par les salles de la Grèce. Puisque nous sommes maintenant jour de Hanouka, on va faire une petite comparaison. Or, bon, comme un juif traditionnel, moi je n'étais jamais rentré là où il y avait des statues, ni dans une église, ni dans un musée, à la limite c'est la même chose. Et finalement, comme c'était une mitzvah, faire une émission sur Pessah pour la télévision française, j'ai accepté l'hérésie du rabbin Eisenberg de m'inviter aux salles du Louvre. Et je suis allé aux salles du Louvre. Et alors, quand je suis passé par les salles grecques, j'étais très impressionné par la beauté de la statuaire grecque. C'est très joli. Mais lorsque je suis rentré après cela dans les salles égyptiennes, alors les salles grecques, c'était finalement rien du tout. Parce que, je ne sais pas comment vous dire, l'esthétique grecque est une espèce de film très harmonieux, mais tout est mort. Surtout lorsque c'est comparé en contraste avec cette énorme vie qui est figée dans la pierre des statues égyptiennes. C'est-à-dire, c'est vivant. Alors que la statue, je veux dire, il y a ici une expérience spirituelle colossale qui a été fixée par les artistes égyptiens. Comparativement à cela, la beauté de la statue grecque est une beauté sophistiquée, est une beauté artificielle. Est-ce que je me suis suffisamment exprimé? Non seulement artificielle, mais morte. Je dis souvent, les statues grecques, intentionnellement, on les fait les yeux vides, les yeux morts. Alors que ces formes de la vie, hybrides d'ailleurs, pas toujours ou animales seulement ou humaines seulement, mais mixtes, qu'on a dans la statuaire égyptienne, ça indique, ça fait pressentir une expérience spirituelle colossale de ce type de paganisme. Ce qui d'ailleurs grandit d'autant le mérite des Hébreux de l'époque d'avoir pu traverser de telles civilisations et ne pas s'y assimiler. Je veux dire, les tentations étaient très grandes. Et que probablement, la tentation de l'Égypte a dû être certainement beaucoup plus grande que la tentation de la civilisation grecque elle-même. Et d'une certaine manière, Hanouka et Pessah se ressemblent un peu de ce point de vue-là. C'est-à-dire, arriver à rester soi-même malgré la traversée de ce type de sollicitation culturelle aussi colossale, aussi importante, au fond peut-être l'expérience que nous avons, nous, des dangers de l'assimilation, et peu de choses à côté de ce qu'a pu être le cas dans les grandes civilisations d'antiquité. Parce que finalement, bon, je ne veux pas trop critiquer les civilisations contemporaines, mais elles semblent être très dévitalisées par rapport à ce qu'a pu être vraiment la vie spirituelle au temps des grands paganismes. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Peut-être que les seuls siècles de grande vie spirituelle en Occident ont été le Moyen-Âge, et pas du tout comme on peut croire ce qui est venu après. Au Moyen-Âge, il y a eu une grandeur spirituelle de l'Occident. Et ensuite, ça s'est perdu. Bien, je referme cette parenthèse. Je crois quand même qu'elle était nécessaire pour indiquer ce qui se passe là. Tout se passe que dans ce type de rêve, le pharaon rêve à l'hébreu, comment on peut dire, à la juive, mais à l'hébraïque. Il a un rêve hébreu. Et c'est un rêve que l'Égyptien orthodoxe ne peut pas avoir. Cette espèce de pressentiment que peut-être les lois qui régissent l'économie humaine peuvent se dérégler. Et vous voyez à quel point ça ressemble à la mentalité orthodoxe du matérialisme contemporain. Je crois que ça peut nous faire comprendre beaucoup de ce qui est incompréhensible pour un occidental, de ce qui, je veux dire pour les Européens de l'Occident, de ce qui se passe par exemple en Russie soviétique. Mentalité que, étant donné que la manière dont on connaît les lois scientifiques, sociologiques pour l'économie, on a prévu un plan quinquennal ou septennal, peu importe, de l'économie, l'idée qu'un facteur indifférentiel de liberté puisse intervenir pour détraquer cela, ça met en question la conception du monde de la vérité marxiste, de la vérité matérialiste dialectique, et par conséquent, c'est l'hérésie du blasphème absolu, et c'est pas pensable. Celui qui pense quelque chose de ce genre est sûrement fou, donc il faut le soigner. C'est à peu près le genre de parallèle. Il y a eu beaucoup d'études faites à propos de ce qu'on appelle l'esprit d'orthodoxie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les religions idolâtres, astrobiologiques, sont des religions basées sur l'esprit d'orthodoxie. Parce que une quelconque hypothèse qu'il en soit autrement met en question tout le système. Or, la perception du facteur de liberté dans l'histoire, c'est précisément l'hébreu qui va l'avoir. Voilà donc ce qui éclaire cette expression. Ben poter otam le pharaon. Et le pharaon n'a pas trouvé dans sa propre société de sages qui soient capables de lui expliquer de telle façon de satisfaire son esprit. Et les explications qu'on lui donnait pouvaient être satisfaisantes d'un point de vue purement intellectuel, compatibles, homogènes à la doctrine officielle, mais elles ne pouvaient pas satisfaire son propre pressentiment, sa propre intuition. Alors on lui raconte. Et c'est précisément le Sarah Mashkin qui avait été dans la fosse avec Joseph et dont Joseph avait expliqué le rêve précédent. Et la, l'issue de ce rêve avait été conforme à ce que Joseph avait prévu, disons avait prédit, lui raconte qu'il a connu une expérience de cet ordre. Comme s'il y avait, si vous voulez, une intimité de pressentiment entre ce ministre qui est passé par l'expérience du rêve et le pharaon, et il lui parle de Joseph, et possédant un homme capable de dévoiler le sens de ce rêve déjà un peu à la manière hébraïque, alors le pharaon en profite pour lui confier la gestion des affaires de l'Égypte. Certains historiens de cette époque ont noté qu'effectivement il y a eu une parenthèse dans l'histoire de la culture égyptienne et qu'il y a eu une dynastie monothéiste. Tout se passe comme si on pouvait essayer de faire le parallèle entre le récit biblique et cette indication des historiens. Ça ne veut pas dire que nous avons besoin des hypothèses des historiens pour comprendre ce qui se passe dans le récit biblique, c'est à un autre niveau que cela se passe, mais tout se passe effectivement comme s'il y a eu une parenthèse et que l'Égypte a connu un temps de tentative d'une théologie monothéiste à travers son expérience spirituelle païenne telle qu'elle la connaissait. Bien, voilà, si vous voulez, le premier thème que je voulais voir aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on analyse un peu plus tel ou tel point de ce problème, et puis on en choisira un autre. Je vais te demander d'ouvrir la porte ou de faire un courant d'air. Je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais je vais Bien, eh bien, écoutez, je vais un peu, si vous voulez, enrichir cette analyse par un midrash. Ça vous suggérera peut-être. Ce que je voudrais savoir, c'est si cette comparaison des deux mentalités, c'est-à-dire la mentalité hébraïque que nous raconte la Torah, que nous décrit la Torah, c'est que l'histoire du monde est dirigée par une volonté libre, alors que la mentalité du paganisme, c'est que l'histoire du monde est le résultat d'un jeu de forces impersonnel qui ont été divinisés par la mentalité païenne et qui, si vous voulez, sont le conditionnement même, non seulement des phénomènes, comme on le connaît dans la mentalité scientifique moderne, mais des faits eux-mêmes, des événements eux-mêmes. Peut-être que je vais commencer par expliquer ce point-là. Ce que nous découvrons, de façon vraiment positive, dans le sens positif du terme d'ailleurs, Ryubi, ce que nous découvrons à travers la mentalité scientifique, c'est que les phénomènes sont régis par des lois stables. Cette définition-là du principe du déterminisme est compatible au monothéisme hébreu. Une volonté libre a créé le monde et a fixé les lois par lesquelles les phénomènes du monde fonctionnent, et cette stabilisation des lois de la nature, comme nous disons, c'est le fondement et la condition même de la liberté humaine. Pour que la liberté humaine soit possible, il faut que le monde dans lequel l'homme est inséré soit garanti, je veux dire, le fonctionnement du monde soit garanti par des lois stables. Si ce n'est pas suffisamment clair, je pourrais vous citer des quantités de versets à ce sujet. C'est-à-dire que, finalement, l'ordre des lois de la nature, le véritable ordre des lois qui régissent les phénomènes, c'est la volonté du Dieu créateur qui les a installées avec comme principe qu'une loi ne doit pas avoir d'exception. L'exception qu'on appellera le miracle, c'est un cas particulier, c'est un cas exceptionnel. Mais il y a une confiance en Dieu créateur qui passe par cette certitude que les phénomènes obéissent toujours aux mêmes lois. C'est bien clair. Ça, c'est la mentalité scientifique que nous connaissons dans la culture moderne et qui est compatible avec le monothéisme hébreu. Il y a une différence, si vous voulez, d'approche de ce problème à travers le judaïsme, à travers d'autres mentalités religieuses, en ce sens que Chez les goïms en général, l'évidence serait que l'ordre des lois de la nature échappe à la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu ne passe qu'à travers le miracle, alors que le monothéisme hébreu commence d'abord par affirmer que ce Dieu dont nous parlons est le créateur du monde de la nature et que par conséquent il ne peut pas y avoir opposition irrémédiable entre la loi morale révélée par Dieu dans l'expérience spirituelle et d'autre part la loi physique, la loi de nature qu'il a installée lui en tant que créateur. C'est-à-dire cette notion, toutes les choses à la limite, cette notion que les lois de la nature sont l'œuvre du diable et que les lois morales sont l'œuvre de Dieu, ce dualisme-là est étranger au monothéisme hébreu. C'est celui qui a créé la nature et ses lois qui nous a donné les lois de la morale. Est-ce que c'est clair? Bon. Par conséquent, à la racine, dans le principe, les deux ordres, celui de la nature et celui de la morale, ont une racine commune. C'est au-delà de la raison, mais c'est le fondement même de la foi hébraïque. C'est bien clair. Hachem, ou Elohim. Celui qui nous a révélé la Torah, c'est celui-là même qui a créé le monde. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons confiance que cette Torah correspond à ce monde. Mais l'expérience nous montre que c'est très difficile de tenir compte d'une telle évidence dans la culture contemporaine. La culture contemporaine est dualiste de fond. C'est-à-dire que l'ordre de la nature et l'ordre de la vie spirituelle sont incompatibles, irrémédiables. Et c'est pourquoi d'ailleurs la conscience contemporaine tend de plus en plus à devenir une conscience tragique. Bien, parce que c'est une conscience dualiste dans le... Mais dans la religion, la mentalité païenne de la religion astrobiologique, ce n'est pas ce principe de déterminisme-là qui est en question. C'est-à-dire, là nous trouvons un principe selon lequel les faits FITS, et pas seulement les phénomènes, sont prédéterminés par le fonctionnement des lois cosmiques. C'est une toute autre mentalité. Je voudrais arriver à faire percevoir la différence. En ce sens que, je prends par exemple le phénomène de la pluie. Bien, il y a une différence radicale à dire que lorsqu'il y a pluie, c'est comme ça que ça fonctionne, évaporation des eaux de la mer, et ensuite condensation des nuages, et puis finalement précipitation, il y a des lois qui régissent là, et la mentalité scientifique positive, non pas positiviste, mais positive, nous dira que lorsqu'il y a pluie, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? Tandis que la mentalité astrologique nous dira que tel jour, à telle heure, il y aura pluie. Ça veut dire qu'il y a une prédétermination des phénomènes. Tout ceci a été critiqué, bien entendu, par les sages d'Israël. C'est que, bien évidemment, le phénomène humain est conditionné. Il y a des tendances, mais il n'y a pas de fatalité des événements. Il y a un conditionnement des phénomènes, donc des tendances au niveau de l'identité humaine, mais non pas fatalité du choral, fatalité du destin. Je pense que c'est clair la différence. Et vous voyez qu'à la limite, nous avions affaire donc à une...